C'est intéressant cette question des droits d'auteur parce qu'on ne peut pas vraiment légiférer sur un plat. C'est difficile de mettre des mots sur un goût. Il faudrait en fait presque une sorte de copyright sur des techniques. Derrière une recette, il y a des manières de faire, des ingrédients, des chaînes opératoires. Il y a toute une organisation qui font que c'est difficile à breveter. Donc effectivement, comment est-ce que une recette peut être vraiment associée à un chef ? C'est compliqué.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Un riz au lait onctueux qui fait venir Rive Gauche à Paris toutes les bouches sucrées, c'est ce dont nous avons parlé dans le premier épisode de cette série. Avec sa nougatine et sa mousse de caramel, ce dessert unique a été inventé par le chef Stéphane Jégot, qui officie au restaurant L'Ami Jean, dans le 7e arrondissement de la capitale. Cette recette, Stéphane Jégot aurait pu choisir de ne pas la partager. C'est habituellement le sort qui est réservé aux plats ou aux préparations culinaires rencontrant un certain succès, à l'instar de ce cas d'école industriel qu'est la sauce Big Mac, pour laquelle la chaîne de restauration rapide McDonald's a imaginé un véritable marketing du mystère. Mais à l'échelle de son restaurant, Stéphane Jégot, lui, a décidé de rendre public les ficelles de son riz au lait. Et selon la chercheuse Aël Théry, le fait de partager ses recettes n'est pas un manque de stratégie de la part des chefs.
Je suis anthropologue de la cuisine. J'ai travaillé pour ma thèse autour du métier de cuisinier en Chine. Donc, je me suis intéressée à l'organisation de la production en cuisine, aux relations au sein des cuisines, donc entre cuisiniers, au sein d'une brigade, quoi, au processus d'apprentissage et de transmission des techniques, et aussi au processus de création et de formation aux recettes et aux techniques en cuisine, et spécifiquement en Chine, dans le sud de la Chine, en fait, dans la province du Guangxi. Et donc aujourd'hui, je suis chargée de recherche INRAE, donc l'Institut national de recherche en agroalimentation et environnement, au Centre Maurice Albach à Paris.
Pour la chargée de recherche INRAE, spécialisée en anthropologie de la cuisine, il est évident que les chefs qui partagent leurs recettes gagnent en capital sympathie en même temps qu'ils consolident leur notoriété à travers des plats mythifiés.
Beaucoup de chefs qui aujourd'hui font des livres de cuisine, donc en essayant de démocratiser un peu leurs recettes de cuisine et pour le plus grand nombre, pour que le plus grand nombre puisse se les réapproprier. Donc il y a dans cette volonté aussi de rendre visibles certaines ficelles du métier ou certains petits secrets, une volonté aussi de se rapprocher, enfin de donner aussi à la clientèle cette impression de se rapprocher un peu du chef et donc de pouvoir aussi apporter un peu une partie de cette cuisine chez eux. Donc d'avoir aussi vraiment cette idée de démocratisation, popularisation un peu, qui est aussi, qui, je ne dis pas qui est réel, mais qui peut être médiatique de ce travail des chefs aux consommateurs lambda, on va dire. Donc il y a toujours, en donnant en tout cas un peu accès à leur cuisine, cette volonté un peu commerciale ou en tout cas médiatique de ces chefs, de se rendre un peu plus accessible. Malgré tout, c'est pas parce qu'on a une recette de Stéphane Jégot ou d'Alain Passard ou un livre de cuisine d'un grand chef qu'on peut se prétendre pouvoir reproduire leur cuisine exactement à l'identique. Donc, il y a aussi une sorte de subterfuge de donner aussi quelques éléments de sa propre cuisine à ses consommateurs sans pour autant tout divulgâcher parce que évidemment, l'expérience n'est pas la même. Donc, il y a aussi, je pense, cette envie de sortir un peu du carcan de la haute cuisine et des cuisines pour donner aussi un peu à la fois l'illusion mais aussi effectivement accès à certains éléments de la cuisine pour que chacun puisse se la réapproprier.
Aël Théry a fait une thèse en anthropologie à l'EHESS à propos du métier de cuisine en Chine. un terrain d'étude sur lequel elle va revenir à plusieurs reprises dans cet épisode. Tant par effet de contraste, le cas chinois éclaire sur ce qui relève de spécificité par chez nous.
Et en fait, mes questions de thèse, elles viennent d'un parcours un peu hybride où j'ai commencé à faire un BTS en cuisine, enfin en hôtellerie-restauration, et des études de chinois, puis des études de master en anthropologie pour essayer de, en fait, d'apporter des questions qui avaient émergé dans, au sein du métier, en fait, en exerçant moi-même en cuisine en France. Voilà, certaines questions qui étaient dues notamment à la place des femmes en cuisine, à la hiérarchie assez stricte dans les cuisines, notamment parisiennes de haute cuisine. Ou... Donc voilà, il y avait des questions en fait qui étaient directement issues de mon expérience et que j'ai un peu essayé de traduire dans, en questions anthropologiques. Et donc sur un terrain étranger, mais finalement, voilà, c'est une étude de cas parmi d'autres.
Avec Aël Théry, nous sommes revenus sur l'emblème de la cuisine d'auteur, ce qu'on appelle le plat signature. Dans le cas de Stéphane Jégot et de son Riolet, c'est un dessert signature, soit la création qui symbolise le mieux l'univers et l'expertise d'un ou d'une chef.
Mais alors, un plat signature... Moi, comme je l'entends, c'est la volonté d'un ou d'une chef de d'apposer son nom, son identité sur un plat pour qu'on reconnaisse ce plat comme le sien, donc comme un peu sa marque de fabrique, et à la fois aussi pour contribuer à sa reconnaissance. Donc, certaines recettes lui sont attribuées. Donc voilà. Donc il y a c'est comme ça qu'on va à la fois enfin reconnaître le chef dans tous les sens du terme, c'est lui accorder reconnaissance et le reconnaître comme voilà, cette recette enfin est identifiée à tel chef et inversement. Donc d'associer en fait une recette et des manières de faire à une personne. Le saumon à l'oseille de Bras, Paul Bocuse, ses recettes phares, il y a le rouget en écaille. Enfin, Paul Bocuse a beaucoup de plats signatures, en fait. La soupe VGE, la fricassée de volaille de Bresse au Maury.
Dans l'idée de plat signature, on trouve une notion centrale, celle du geste cuisinier d'une personne, la trace d'une vision singulière, une patte. Pour Aël Théry, ce principe de plat signature est indissociable de la figure dominante du chef.
Qui est intéressant, enfin dans l'idée de plat signature, c'est vraiment de mettre le chef au centre de la création associée à un restaurant. Donc c'est la cuisine d'eux, on se rend au restaurant d'un chef ou d'une chef pour tel plat et pour tel style de cuisine.
Cette manière de considérer les choses est assez symptomatique de la gastronomie française, car ailleurs dans le monde, la figure tutélaire du chef ne s'exprime pas nécessairement ainsi. En Chine, par exemple, on va au restaurant pour retrouver des classiques des cuisines régionales, toujours exécutés fidèlement.
On ne se rend pas dans un restaurant pour la cuisine d'un chef. On connaît en fait très peu le nom des chefs, mais plutôt pour un plat donc associé à une région ou à un type de cuisine, donc la cuisine cantonaise ou la cuisine du Zhejiang, enfin voilà, des cuisines en fait particulières. Donc en fait, en réalité, il y a beaucoup moins cette idée de plat signature, en fait, assez peu. Au sein d'un type de cuisine vont se décliner en fait toute une série de plats, donc associés vraiment à un répertoire culinaire. Donc en fait, le chef a un tout autre rôle. Il est beaucoup moins au centre de la production que peuvent l'être les chefs en France, par exemple. En Chine, le chef va moins avoir cette place centrale et dans les médias et même au sein des cuisines. Il va avoir ce rôle de constituer un groupe autour de valeurs communes, on va dire, ou d'une identité culinaire, d'une ligne éditoriale culinaire particulière. Par exemple, sur mes terrains de recherche, il y avait ou il y a toujours d'ailleurs toute une vague de nouvelles cuisines dites sauvages. Et donc, en fait, au sein de cette lignée de chefs, constituée donc autour effectivement d'un grand chef et donc de ses disciples. Les disciples vont en fait créer une cuisine qui est un peu une déclinaison de cette ligne éditoriale culinaire où chacun y trouve son compte, mais où du coup cette idée de chef et donc d'identité culinaire autour d'un chef est moins importante, c'est plutôt autour de l'identité d'un groupe.
Cette comparaison entre la France et la Chine conduit à se poser une question. dans quelle mesure peut-on revendiquer la création d'un goût ? En quoi une ou un chef peut-il estimer avoir inventé quelque chose de véritablement nouveau en cuisine ? En somme, un droit d'auteur cuisinier peut-il exister ? En France, la propriété industrielle est protégée par l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Et quand on se rend dans la foire aux questions de l'INPI, sur leur site internet, on retrouve l'interrogation suivante. Peut-on déposer une odeur ou un goût en tant que marque ? La réponse de l'INPI est sans équivoque. Les signes olfactifs ou gustatifs doivent, comme toute autre forme de marque, être représentés afin que les autres personnes puissent en déterminer l'objet et l'étendue. Cette condition est techniquement très difficile à remplir et ne permet donc pas qu'une odeur ou un goût soit protégeable à ce jour. Alors, pour rendre unique leur plat, il ne reste au chef que la construction d'une identité propre, d'un récit, d'un ancrage historique et territorial à réarranger soi-même.
C'est vrai que c'est intéressant cette question des droits d'auteur parce qu'on ne peut pas vraiment légiférer sur un plat. Difficile de mettre des mots sur un goût. Il faudrait en fait presque une sorte de copyright sur des techniques. En fait, voilà, derrière une recette, il y a des manières de faire, des ingrédients, des chaînes opératoires. Il y a toute une organisation qui font que c'est difficile à breveter. Donc effectivement, comment est-ce que une recette peut être vraiment associée à un chef ? C'est compliqué. Donc il faut autre chose en fait pour reconnaître cette affiliation de la recette au chef. Donc, au-delà de la cuisine en tant que telle ou du plat en tant que tel, c'est sûr qu'il y a aussi des mots, tout un ensemble de tout un lexique, tout un vocabulaire qui vont contribuer à la reconnaissance. Donc, du coup, en fait, un peu à l'identité de ce plat. Donc, c'est vrai que on dit souvent que cuisiner, c'est autant fabriquer avec ses mains une recette que en parler. Et c'est vrai que du coup, beaucoup de chefs vont faire appel à une histoire pour raconter un plat. Derrière un plat, il y a une histoire de transmission, une histoire de terroir, de manière de faire. Et donc, tout ça va contribuer en fait à l'identité de ce plat-là.
Pour Aël Théry, le storytelling des plats est une affaire sensible par chez nous. Il y a en France une forme de mythe de la création pure. Une volonté de ne jamais altérer le récit d'une invention qui serait uniquement née d'une fulgurance en cuisine.
Donc il y a aussi le fait que une recette ne vient pas de nulle part et donc il y a pour constituer une recette, une recette provient d'un héritage, soit a été transmise d'eux ou des influences. En fait, il faut être inspiré par exemple, créer du nouveau. Donc, il y a la peur chez de nombreuses personnes chez de nombreux chefs d'être accusés d'avoir copié ou de ne pas reconnaître les influences. Or, une recette est forcément le produit d'influence ou le produit d'un héritage ou d'influence. Donc, c'est aussi une difficulté dans la reconnaissance, dans la reconnaissance d'une affiliation sur un plat. Des terrains que j'ai plus explorés ces dernières années que le cas français, le fait de créer ensemble est vraiment complètement reconnu. Donc que ce soit créer ensemble en cuisine ou en fait créer un plat, c'est beaucoup plus collaboratif que ce qu'on pense, mais que ce qui est médiatisé. Donc élaborer un plat ou un nouveau plat, ça va être réfléchir ensemble, faire des expérimentations, ajuster, recommencer, et le plat final est finalement le résultat de la collaboration de nombreuses personnes dans une équipe. De ce que je parlais, ce que j'évoquais un peu plus tôt des lignées de chefs, tous les disciples dans cette lignée un peu commune de cuisine vont régulièrement échanger. Donc que ce soit lors de compétitions de cuisine, d'événements culinaires qui réunissent des pairs, il y a cette acceptation en fait que créer des recettes et collaborer en fait ensemble à l'élaboration d'un type de cuisine, c'est complètement avouable. Et dans d'autres endroits, dans la haute cuisine, par exemple aux États-Unis, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Vanina Lechziner qui a un peu travaillé là-dessus et qui montre bien que les chefs en haute cuisine ne vont jamais dire qu'ils ont été influencés par d'autres chefs. Par exemple, être allé manger chez un tel ou une telle, ce sont pas des influences acceptées ou en tout cas avouable. Être allé à l'étranger, reproduire la cuisine de sa grand-mère, ça c'est des choses qu'on peut, qui font partie un peu d'un storytelling beaucoup plus légitime. Mais le travail collaboratif entre chefs peut être un peu plus difficilement avouable. Les recettes ne viennent pas de nulle part. Il y a aussi ce côté où souvent on dit que des recettes ne viennent pas en un claquement de doigts. C'est pas une improvisation instantanée, la cuisine. Il y a quand même toute un gros travail de mise en place. On fait pas une recette à partir de rien. Donc en fait, on peut pas non plus improviser complètement. Et donc il y a quand même plutôt en fait dans le travail de création et d'évolution, parce que la cuisine est en permanente évolution, cette idée qu'on s'adapte aussi à des circonstances inattendues, à un environnement. Donc ça peut être un accident, une rupture de produit, un raté, de la casse, un oubli, un accident, etc. Ou une modification de l'environnement, l'humidité, des conditions qui tout à coup évoluent. Et donc ça va générer des nouveaux gestes, des manières de faire qui sortent de l'ordinaire ou du cours normal de la production. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que des nouvelles choses vont émerger sans forcément qu'il y ait préméditation ou geste ultime de créativité ou d'improvisation, mais plutôt une accumulation d'eux et un travail progressif, en fait, qui amène à des nouvelles choses.
En France, l'idée de plat signature est donc bien une émanation du secteur compétitif qu'est la gastronomie française. Une gastronomie française qui, dans la plupart des grands palaces et restos étoilés, repose sur un fonctionnement pyramidal en cuisine et tend à surmédiatiser les chefs tandis que le personnel est trop souvent considéré comme interchangeable.
Donc du coup, transmettre une philosophie de la cuisine ou une manière de d'appréhender la cuisine, toute une ambiance en fait, toute une identité du restaurant est quelque chose qui effectivement émane du chef, mais la reconnaissance de ce travail collaboratif comme aussi la participation de chacun et de chacune à la transformation de la cuisine, à son renouveau, au fait que que ça ne piétine jamais, ce travail collaboratif de toute une équipe est beaucoup moins reconnu dans les médias et à mon sens l'effet signature des plats contribue en fait à cet oubli un peu de tous les travailleurs qu'il y a derrière les plats.
Pour autant, il y a en Chine également une mystique associée à l'acte de création culinaire. C'est l'idée du secret ultime, propre à chacun, que tous les cuisiniers et cuisinières emporteront dans leur tombe. La touche ultime qui aura rendu unique chacun de leur passage sur Terre.
Donc c'est vrai qu'en Chine, les chefs disent souvent qu'ils ont un secret ultime qu'ils emporteront dans leur tombe comme une manière de ne pas être remplaçable. Il y a évidemment donc ils transmettent leur philosophie, leur technique, leur savoir-faire à leurs disciples, mais pour ne pas être oublié de l'histoire de la cuisine chinoise, ce secret ultime qu'ils gardent pour eux et qui fait leur spécificité. Donc ça contribue aussi évidemment à cette mythification un peu du chef qui ne peut pas être remplaçable. Alors ce secret ultime, tout le mystère réside dans le fait qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mais effectivement ça peut être donc pour une recette donnée un tour de main, le fait que il parvient à faire cette recette mieux que quiconque, un ingrédient un peu secret, donc ce secret dont qui fait que il est le seul à pouvoir réaliser cette recette. Donc il y a un côté un peu mystique autour de ça que tous les chefs ne portent pas, mais que certains chefs d'une certaine génération de 70-80 ans portent, racontent à leurs disciples.
Voilà, nous venons de voir dans cet épisode la place de l'autorat en cuisine, pierre angulaire de la créativité gastronomique. Il y a quelque chose de l'ordre du mythe de la création pure qui se joue dans nos histoires de fourneaux. Et dans nos rayons de grande et moyenne surface, comment ce récit s'organise-t-il ? Comment les marques de l'industrie agroalimentaire se sont-elles inspirées de cette esthétique de l'authenticité ? À quoi ressemblent les secrets de fabrication des grandes entreprises qui font le paysage gustatif français ? Rendez-vous au prochain épisode pour le savoir. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Catherine de Carvalho, Mathilde Jodin et Diane Le Sieur. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.